si proche. Découverte, le magazine des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Bonjour, on continue de battre le pavé parisien cette semaine, toujours à Barbès, petit quartier historique et mosaïque du nord de la capitale. Ce quartier, on l'a vu la semaine dernière, a toujours été une terre de brassage, des cultures et des identités françaises, africaines et autres, un lieu à part, haut en couleur. Et pour la suite de ce voyage, il y aura donc en toile de fond du bleu, du blanc et du rouge bien sûr, du rose tati aussi tiens, aux couleurs du fameux magasin à bas prix situé sur boulevard Barbès, du rouge militant, en écho aux nombreuses luttes menées par les associations de quartier pour les sans-papiers ou les mal-logés, du jaune or, enfin, car les lieux s'appellent aussi Goutte d'or. Mais il y a quand même quelques ombres au tableau. En effet, Barbès-Château-Rouge est souvent montré du doigt comme une no-go zone ou un territoire perdu de la République, rien que ça. Pourtant, depuis des décennies, c'est là qu'on réinvente chaque jour le vivre ensemble, au gré des nouveaux arrivants, des luttes et des époques. En ce moment, ce sont les classes moyennes et supérieures qui débarquent, le logement et l'espace public sont de vrais enjeux dans la capitale et ce coin populaire de Paris n'y échappe pas. Barbès, Paris en couleur, épisode 2, c'est la suite du reportage de Sarah Lefebvre.
On est devant le LMP, le lavoir moderne parisien, tout au nord de la Goutte d'Or, rue Léon. Et sur la façade, c'est écrit « Madame la ministre de la Culture, protégez le théâtre ». Sur le rideau de fer, le lavoir moderne parisien est le seul théâtre du quartier de la Goutte d'Or à Paris. Il va être expulsé par un promoteur immobilier luxembourgeois. Signez la pétition, merci. Donc il est fermé le théâtre aujourd'hui, mais il y a une compagnie de théâtre qui s'appelle Graines de Soleil qui s'en occupe, qui essaie de le réouvrir et qui organise chaque dernier dimanche du mois un atelier théâtre forum, une scène ouverte, des concerts avec les habitants du quartier et d'ailleurs, on va aller voir ce qui s'y passe.
Après tous les passages qu'on a fait, c'était quand même la question effectivement de l'espace public. Qu'est-ce que c'est les espaces où on vit ensemble, où on est ni chez l'un, on n'est pas forcément dans son chez-soi, mais on est dans un endroit qui appartiendrait à tout le monde et où on peut se croiser, comme on le fait ici, quelque part. Et comment est-ce qu'on prend possession aussi de la rue, des parcs, comment est-ce qu'on habite ces lieux-là? Et la troisième question, c'était qu'est-ce que ça voudrait dire faire quartier? Sachant qu'à l'intérieur du quartier, il y a des vrais endroits de conflit. Voilà, c'est un vaste programme. Qu'est-ce que ce serait faire quartier aujourd'hui, ici?
Bonjour Sarah.
Bonjour Céline.
Vaste programme en effet que celui auquel s'attellent les habitants réunis ici en théâtre forum et que vous êtes allée voir Sarah.
Et ce jour-là, ils étaient une dizaine de toutes origines assis en cercle à échanger, s'interroger ensemble, autant sur les jeunes qui traînent le soir que sur la sécurité, les échanges culturels ou la place des femmes.
Comment faire quartier? Les artistes et les militants associatifs, nombreux à Barbès, ont leur petite idée. Ils défendent la richesse culturelle de ses habitants comme autant de sources d'inspiration et de dialogue, le tout dans des lieux ouverts à tous comme le lavoir moderne parisien.
Oui, sauf que ce lieu, vous l'avez entendu, est en danger, en ce moment plus que jamais. En effet, il ne reste plus que quelques semaines à la compagnie qui gère ce théâtre, situé dans un ancien lavoir, pour lever des fonds, survivre et renaître.
Comment faire quartier? Pourquoi pas déjà en le connaissant mieux, en partageant son histoire et en luttant contre les préjugés, et il y en a sur le quartier, même parmi certains habitants. C'est le choix qu'a fait en tout cas l'Institut des cultures d'Islam, ou ICI, qui depuis 4 ans se propose, à travers des visites guidées, de montrer le vrai visage de Barbès.
Bonjour et bienvenue. Moi je m'appelle Jackie Libaud, donc je fais régulièrement des visites pour l'ICI. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire du quartier, ici, il faut imaginer que pendant des siècles, c'était vraiment la campagne. En 1860, la ville de Paris a absorbé le village de la Chapelle, le village de Montmartre, le village de Clignancourt. On a créé le 18e arrondissement. Et au sein du 18e, il y a 4 quartiers, dont le petit quartier de la Goutte d'Or qu'on va voir maintenant. Donc c'est un quartier au départ très ouvrier, très industriel. Par exemple, à l'endroit où nous nous trouvons, en 1836, c'était des usines de machines à vapeur. Quand la ville de Paris a absorbé la Chapelle, ces usines ont disparu. À la place, on a fait un dépôt pour la Compagnie Générale des Omnibus de Paris. Donc ici, il y avait des hangars pour accueillir les autobus impériaux et puis des écuries pour les chevaux. Et c'est seulement vers 1890 qu'on a déménagé ces entrepôts et à la place, on a fait de toutes pièces C'est deux rues, rue de Suez et rue de Panama. Et vous voyez, tous ces immeubles sont dans le même style. Ils ont été faits en même temps. C'est un style haussmannien simplifié, sans le balcon du deuxième étage. Voilà. Et donc, depuis, le quartier est toujours resté plutôt populaire, ouvrier. Et puis, dans nos déambulations, on va voir des choses qui, souvent, ont un rapport un peu avec ce passé populaire. Avez-vous des questions ? Bon, alors, allons-y.
Vous habitez le quartier, madame ?
Oui, moi, j'habite 62 64 Doudeville et du 15 au 25 rue de Rang.
Et vous, madame ?
J'habite là.
Dans l'immeuble devant lequel on passe, donc rue des Poissonniers.
Voilà, c'est là.
Ah oui. J'ai vu ça, je rêvais.
Ben, c'est la nouvelle politique de la ville en général, végétalisons la ville. Et là, effectivement, la ville n'hésite pas à ouvrir le sol, donc à découper le bitume, pour planter des plantes grimpantes qui vont garnir ce mur.
Moi, je découvre.
Alors,
je
sais même pas ce que c'est. C'est que des jasmins et des chèvrefeuilles.
Désolé, on est très en retard.
Bonjour.
Bonjour tout le monde, bonne arrivée.
Alors le quartier, les premières impressions, vous connaissez un peu déjà, non ?
Oui.
On y habite, hein.
Ah, oh, vous y habitez en plus.
Hélas. Hein.
Hélas.
Oh, ben, certains coins, oui.
Oh bon.
Voilà. Château Rouge, c'est pas terrible.
Il y a des gens qui y vivent, quoi. Après, on s'y plaît pas, quoi, mais il y a quand même du monde.
Ah ça, il y a du monde, hein, on n'est pas
tout seul.
Il y a beaucoup
de monde, là, oui, effectivement. Ouais.
Vous habitez depuis combien de temps ici, Bernard Taglin ?
Oh là, c'est 40, 45 ans, je ne compte plus. Voilà, je fais un peu partie d'immeubles. Donc.
Là, derrière nous, il y a une résidence du Crous.
Ouais.
Il y a pas mal maintenant de résidences universitaires à la Goutte d'Or.
Ouais. Rue Mira aussi.
Hein, ouais. Rue Mira, oui, rue Poulet.
Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles ? Alors là,
Où ça ? Ici, là, oui.
Pour les jeunes filles, c'est un peu moins facile que pour les hommes de vivre à la Goutte d'Or. Mais bon, ouais. C'est pareil, il ne faut pas baisser les bras.
Ça dépend où dans la Goutte d'Or encore.
Ça dépend où,
oui,
voilà, il y a des coins, oui. Ouais.
C'est... Embarqué dans le 16e, hein, quand c'est...
Oui,
voilà,
c'est pareil.
Il y a des rues qui sont vraiment isolées. Oui. Nous, le problème, c'est qu'il y a toujours du monde. Le soir, nous, à Goutte d'Or, on a les prostituées, donc on n'est pas tout seul.
Ouais. Je crois que Barbès, c'est aussi un lieu où... Les gens construisent leur vie, on n'est jamais tout seul, on rencontre toujours plein de monde, et on sait se mobiliser, qu'on a appris à résister. Hein. Pour la rénovation, ça a beaucoup joué. Quoi.
Mais oui. Alors justement, racontez-nous comment ça s'est passé la rénovation. Quand est-ce que ça a commencé ?
En gros, ça a commencé dans les années 80. Quoi. Donc il fallait rénover, hein. Il y en avait besoin. D'accord. Et là, moi je me souviens des premières affiches, c'était « il faut dératiser ». Ça n'a pas duré, mais je l'ai vu, ça, quand même. Bon. Après, il y a une immense campagne qui disait, Barbès, il y a de très belles choses, voilà, ça, il faut les garder, mais comme vous faites peur, il faut raser le quartier, passer le bulldozer, on va garder ce qui est bien pour installer des classes moyennes. Vu qu'on n'est pas loin du centre de Paris, on est à 10 minutes des Halles. Et...
Ça, c'était un projet des années 80 ?
Oui. Ben moi, je faisais surtout partie des gens qui mobilisaient un peu, quoi. Hein. On a organisé un peu la population, notamment par immeuble. Hein. Donc, un comité d'immeuble qui décide de ce qu'il veut.
Il y avait un comité par immeuble.
Ah oui, c'est comme ça que ça marchait. Et le cahier de revendication, très souvent, c'était « on est là, on ne bougera pas, on veut être relogé en HLM, et si on est relogé, on quittera notre immeuble ensemble. Personne ne restera sur le carreau. » Donc on a obtenu voilà, l'image un peu de la Goutte d'Or qu'on a aujourd'hui, quoi, hein, où la population a pu rester, notamment la population la plus fragile, qui étaient les hôtels meublés.
C'est quoi les hôtels meublés, justement ? C'est un habitat particulier ? Ouais. Il y en a beaucoup, particulièrement à la
Ici,
Goutte d'Or.
Oh là, mon Dieu, oui. Oh là là, je ne sais pas s'il n'y en avait pas une trentaine. Donc c'est le type d'habitat sans droit, quoi, hein, sans bail, on s'est installé pour une nuit, deux nuits, hein, et certains passaient leur vie, quoi, hein, dans quelques mètres carrés. Et là aussi, les hôtels meublés se sont beaucoup mobilisés, quoi. Ils n'ont pas bougé. On n'a pas lâché.
Et ça a duré combien de temps ?
Ben, ça a commencé dans les années 80, ça a dû se terminer. Oh, la gros de la rénovation, c'était 10 ans quand même. Hein. 10 ans de résistance, quoi.
Après 10 ans de luttes qui ont forgé l'identité frondeuse et militante de Barbès-La Goutte d'Or, le quartier va donc faire peau neuve tout en gardant, Sarah, on l'a bien compris, ses habitants de la première heure.
Et cette rénovation initiée en 1985 par la ville de Paris va complètement changer le visage de La Goutte d'Or. 1400 logements sont alors démolis et plus de 800 logements sociaux sont construits.
Premier quartier à avoir bénéficié d'un programme d'ampleur de la politique de la ville, ce coin de Paris est pourtant régulièrement la cible des discours les plus populistes et glissants, comme en 91 avec Jacques Chirac, alors président du RPR et maire de Paris.
Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à La Goutte d'Or et qui travaille avec sa femme, qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler? Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, vous êtes du matin du cœur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur.
Quelle mouche a donc piqué Jacques Chirac ? Dans son discours très controversé, Jacques Chirac s'est surtout appuyé, vous l'avez entendu, sur l'exemple du quartier de la Goutte d'Or à Paris. Une de nos équipes a essayé de comprendre, sur le terrain, elle a découvert un quartier en pleine mutation.
La Goutte d'Or, depuis plusieurs années déjà, est en pleine rénovation. Des logements sociaux, une école maternelle, un commissariat. Jean-Pierre Pierre Bloch s'avoue plutôt surpris par les paroles du maire de Paris. Le quartier, dit-il, a changé de visage.
Je veux dire que la réponse que je peux donner, c'est ce qu'il a fait ici. C'est la volonté de Jacques Chirac, dès 1983, de changer ce quartier. C'est-à-dire que c'est un nouveau quartier. Et je veux dire que dans quelques années, il fera un très bon vivre à la Goutte d'Or.
Moi j'adore la Goutte d'Or, c'est bien.
Pourquoi ?
Parce qu'on peut jouer. Il y a un grand parc.
Il s'appelle comment le parc ?
Le Square Léon.
Et vous faites quoi dans le parc ?
On joue au foot. On joue au foot avec les jeux du quartier.
Et alors vous jouez aux dames avec des pions d'échecs.
Attendez là ! Eh, viens voir le couleur. Oh my !
Tu ramasses tout.
Si le quartier se calme.
Il triche, attention.
Ah, si, parle au micro, moi je vais lui tricher ici. Hein.
Après, tu fais
un jour seulement. 1, 2, 3, 4, 5 heures.
Le maire fait rire, regarde. S'il y a des pluies, nous sommes là. S'il y a des
jours seulement.
Là, il n'y a pas rien là.
Comment ?
Le maire de Goutte d'Or, là, il doit faire les couvertures ici.
Vous voulez venir ici même quand il pleut ?
Oui.
Il Donc il faut mettre un toit, quoi.
Demande de mairie.
Vous avez demandé déjà ?
Non. On va le faire alors.
Mais il faut payer l'impôt d'abord et avant de s'imposer.
On est dans le square Léon, tout en haut de la petite butte de la Goutte d'Or. Et on va rejoindre Michel Nerneuf, qui habite ici depuis des années, qui est aujourd'hui maire adjoint au logement à la mairie du 18e arrondissement et qui est un associatif historique aussi du quartier.
Bonjour,
vous allez bien ?
Oui. Là, on est à la frontière entre la Goutte d'Or Sud, l'opération de rénovation qui était faite dans les années 80, et puis là, ça commence l'opération Château Rouge. Ça, c'est une opération de rénovation, oui, tous ces trucs-là, là.
Donc ça, ce sont des immeubles qui sont tout neufs.
Qui font un peu barre, enfin qui sont tout neufs, qui sont des années 80. Alors l'architecture, maintenant, on est d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été fait ici. C'était typique de l'époque, hein. C'est souvent des grandes barres avec des trucs qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et donc moi j'habite là, l'immeuble en briques, là, qui est là, et qui est, comme vous le voyez, entouré d'un immeuble neuf, à droite, à gauche, derrière c'est pareil, et devant c'est pareil. On est restés les seuls.
Ça ressemblait à quoi ? Dans la rue, il y avait de la vie ? Vous me disiez qu'il y avait des commerces aussi ?
Ici, c'était vraiment le pôle commercial maghrébin pour tous les maghrébins de l'Île-de-France et de ceux qui venaient en vacances ici pour faire des achats. Il faut se rappeler qu'à l'époque, dans les années 70-80, en Algérie, Tunisie, Maroc, il n'y avait pas beaucoup de... Il y a des tas de choses qui manquaient. Et donc, les gens venaient en France et ils achetaient des tas de choses à Tati. Et puis, ils venaient ici, il y avait plein de boucheries halal. Il y avait des coiffeurs, donc on pouvait faire se coiffer et discuter avec les gens du même village. Il y avait beaucoup de marchands de tissus. Ça a disparu, tout ça. Ça a disparu. La mairie, en 1980, avait pensé l'opération de rénovation de la Goutte d'Or en disant, grosso modo, on va garder le pôle commercial et on va changer un peu les habitants. Leur opération a abouti exactement au contraire. C'est-à-dire qu'ils ont cassé le modèle commercial et les gens n'ont pas été relogés en banlieue. Personne.
Parce que c'était le risque, en fait, c'est ça ?
Ben oui, c'est une des premières opérations d'importance de rénovation à Paris où les gens n'ont pas été éjectés en banlieue. Et donc là, on est dans la rue de la Mode, puisque toutes ces boutiques-là ne trouvaient pas acquéreur. Et un élu, à l'époque, en 80, a eu l'idée géniale avec la Fédération du prêt-à-porter à créer toutes ces boutiques de créateurs. Alors, c'est évidemment pas adapté avec la clientèle du quartier, mais...
Oui, c'est un peu cher à l'intérieur de ces boutiques.
Oui, mais bon, voilà. Et de la même façon, là, on a une super brasserie qui fait des bières artisanales, qui s'appelle No Gone Zone, qui s'appelle Château Rouge, qui s'appelle Charbonnière, avec du gingembre et tout ça, c'est formidable.
No-Go Zone, soit zone de non-droit, c'est ainsi qu'une chaîne de télé américaine a qualifié l'an dernier le quartier et qu'aujourd'hui, des petits producteurs locaux baptisent Sarah non sans humour leur bière No-Go.
Oui, car Barbès, c'est aussi un vivier de créatifs. Dans la rue des Garnes, la rue de la Mode, on retrouve donc tout un tas de boutiques de créateurs parisiens comme Sakina Emsa, Rouli Beut ou Marcia Di Carvalho.
Et tous rendent hommage à l'âme populaire et métissier du quartier jusqu'à afficher en grosses lettres le nom de Château Rouge sur des vêtements streetwear en wax.
Wax ou basin, les tissus africains s'y vendent d'ailleurs comme des petits pains. Château Rouge regorge de petits tailleurs, mais aussi de dandys de la sape avec pour président bien sûr Jocelyn Armel, dit le bachelor.
On vous suit rue de Panama dans sa boutique multicolore.
Pourquoi les couleurs partout ? Mais parce que déjà ici... C'est la République des couleurs. Du 1er janvier au 31 décembre. Et les gens viennent ici pour ça. Ils ne viennent pas pour le bleu marine. Moi, je pense que la couleur, c'est la vie. Et la vie, c'est la couleur. Et ici, nous participons un temps soit peu à la gaieté dans les rues, dans la vie. Quoi. Voilà. Rien que sur ma forme vestimentaire, c'est une forme de résilience. La résilience, elle est partout.
Donc là, on a à notre droite plein d'étagères avec des chemises dessus.
Et des couleurs.
Donc des chemises roses, orangées, orange plus foncé, rose avec des pois. Des chemises blanches, bleu rayé, bleu à carreaux, rose à carreaux.
Fleuri. Et ça, au départ, tu peux penser que c'est une chemise femme. C'est une chemise homme. C'est mortel.
Waouh.
Merci beaucoup. Waouh, c'est même pas fort. Qui fort, oh, Sarah, parce que... Non, mais...
Ah oui, ça, c'est... On passe pas inaperçu avec ça.
Non, mais le but de la vie, c'est pas pour passer inaperçu. Tu es né. Et tu dis non, je ne veux pas être vu dans la vie. Mais si je veux pas être vu dans ce cas-là, faut pas naître. Je suis arrivé, j'étais en seconde. En 77... J'ai eu mon bac, j'ai fait Créteil et Paris 12 AES, Agence économique et sociale, et j'ai fini par l'école supérieure de gestion. Et j'ai fait la meilleure école du monde qui existe. Mais sauf que cette école, j'avais qu'un seul élève, c'est moi, l'école supérieure de la SAP. L'école supérieure de la SAP, oui, c'est peut-être dans mes rêves ou c'est dans la réalité, c'est pas, mais je l'ai faite. Et ça me permet d'être dans la SAP et aujourd'hui d'être ce qu'on appelle un grand acteur de ce quartier qui est la Goutte d'Or, la République française de l'Afrique.
La Goutte d'Or, c'est la République française de l'Afrique.
Oui. Il y a tout ici. C'est le nu ici. C'est le nu. Tu sors, tu peux avoir un asiatique, et comme tu peux voir un bleu, un noir, un rouge. Tout le monde est là. Et tout le monde cohabite pacifiquement. C'est un vrai laboratoire, pour parler de manière sérieuse. Tu me vois aujourd'hui les couleurs que j'ai.
Vous avez une veste bleu roi.
Bleu roi, un gilet blanc et une cravate rouge. Ça te rappelle pas certaines couleurs, non? Bleu, blanc, rouge. Et en plus, là, je suis en dandy. Tu reconnais que c'est beau. Non, Sarah, faut le dire, faut leur dire ce que tu vois. Franchement, est-ce que... Voilà. Donc, là, on m'appelle Prez et président.
Vous êtes le président?
Ouais. Oui, mais le président de la joie. Le président de... Aujourd'hui nous appartient, demain, on ne sait pas. Voilà. Donc, ce quartier-là, je te dis, Sarah, franchement, pour rien au monde, je quitterai ce quartier.
Eh bien nous non plus, on ne va pas quitter Barbès. On fait juste une simple pause pour un nouveau bulletin d'information. On se retrouve dans 3 minutes, toujours à Barbès, République des couleurs, mais aussi du son. A tout de suite.
Il faut rentrer à la Goutte d'Or, c'est pas évident, hein ? Encore aujourd'hui. Il faut venir, il faut écouter, il faut faire ses preuves, il faut...
Si loin, si proche, découverte.
Les gens s'expriment, les gens font la fête. Voilà, les langues, les cultures, l'habillement, tout ça, les arts. C'est une vie assez riche, quoi. Hein. On ne s'en rend pas compte parce que c'est le quotidien. Mais on est à 80 nationalités et on se respecte. On va même plus loin que se respecter. On se retrouve et on vit bien. Ça vaut le coup que vous veniez, voilà. Laissez la peur chez vous et venez vivre et regardez ici, quoi. Faites le tour et puis surtout écoutez, quoi. Des gens ont plein de choses à vous dire.
Besbar, l'envers du décor à deux pas de Montmartre. C'est ce que nous dit la Secret Connection, groupe mythique de rap du 18e arrondissement. Besbar, c'est Barbès, bien sûr, notre destination cette semaine, plongée au cœur d'un véritable bouillon de culture et d'histoire, de musique aussi, et de son, Sarah Lefebvre.
Oui, il y a une vraie bande-son made in Barbès. Des dizaines de langues se mêlent au brouhaha de la ville, aux scènes de marché, aux cris, aux rires, avec de la musique à chaque coin de rue.
Et c'est ce qui a attiré le collectif MU, un groupe de créateurs sonores installé dans le quartier depuis 2005. Ensemble, ils ont imaginé une bande originale du quartier, une balade sonore en fait assez géniale à télécharger et à écouter sur place. Barbès Beats, ça s'appelle.
Je suis allée rencontrer deux de ses membres, Éric Darviron et Vincent Voya, dans leur espace, le Garage MU, situé rue Léon.
C'est un quartier où il se passe beaucoup de choses dans la rue. Les gens vivent volontiers dehors, bon, particulièrement l'été, mais c'est quand même plus évident que dans certains endroits de Paris.
Bah c'est le côté possiblement à la fois enclave, village. J'aime pas trop le mot enclave parce que c'est pas tout à fait la réalité. Au contraire, c'est justement précisément un espace assez poreux où il y a beaucoup de circulation qui opère malgré tout, de gens, hein, j'entends bien, effectivement pas de voiture.
C'est des petites rues, on entend des bruits, des fenêtres ouvertes. Enfin, c'est un quartier qui est assez riche en matière sonore, je pense.
Ouais. Ouais.
Sans être des gros axes routiers, enfin, à part quand t'es à Barbès, mais bon, même Barbès, c'est une ambiance assez particulière pour Paris, quoi.
Une maison spécialisée pour la viande fraîche à Paris, c'est Viande à Gogo. Et oui, au numéro 10 de la rue de Panama, Paris 18e, métro.
Depuis 3-4 ans, là le quartier ça a vraiment commencé à changer de facette. Enfin, tu le sens avec des nouveaux commerces qui sont là, des nouvelles personnes.
Lesquelles par exemple
petites anecdotes comme ça, mais un jour ça m'a surpris. Il y a tout dans la rue Mira qui était quand même assez plein d'appartements murés, qui était un peu ghetto quand même. Je voyais une jeune fille qui faisait du jogging en short à 18h un soir dans la rue Mira. Et je veux te dire qu'il y a 10 ans ça aurait fait. Ça serait peut-être très bien passé, mais c'était un pari de le faire quand même. L'autre jour, je déjeunais à une petite pizzeria qui est rue de la Goutte d'Or, et je voyais une fille tranquille sur la terrasse, avec son Mac sur la terrasse. Enfin, c'est des petits trucs qui paraissent évidents maintenant, mais je peux te dire qu'en 2005, tu réfléchissais peut-être à deux fois à mettre ton Mac tout neuf à la terrasse d'un bar de. Des petits bars de quartier, quand même, un peu vénère, avec des actions tout le temps qui se passaient à droite à gauche.
Ils sont plus ou moins en train de finaliser aussi la réhabilitation, y compris des rues, en fait. C'est pas anecdotique du tout, c'est-à-dire que là, les trottoirs se sont vachement élargis. Et en même temps, depuis quelques temps, émergent aussi plein de nouveaux lieux. J'allais dire bobos, je déteste utiliser ce mot-là parce que c'est pas vraiment une réalité, ça reste quand même assez populaire malgré tout. Nous, on doit d'ailleurs faire partie, enfin, au garage,
oui,
même si
sûr.
On, de justement aussi cette émergence, oui. Nous, ça a drainé des gens, plein de gens qui connaissaient pas la Goutte d'Or, donc qui finalement sont venus par les programmations musicales qu'on peut développer. Et puis, de toute évidence, aussi plein de gens nouveaux sont arrivés dans le garage, qui sont en fait des habitants de la Goutte d'Or qu'on connaissait pas du tout. Tu sens d'une façon extrêmement perceptible que les choses ont complètement évolué. Quoi, pour la
C'est-à-dire, par exemple, d'un point de vue sonore, comment on décrit les choses aujourd'hui ?
Éric parlait beaucoup du quartier, le fait que les gens vivent dehors, etc. Il y a encore ça, parce qu'évidemment, on est dans des changements qui opèrent lentement, malgré tout. Mais c'est beaucoup moins de densité, ouais. Les habitations ont changé, la population est aussi en train d'évoluer, donc les standards, on va dire, de vie aussi.
Bah, voilà, ça change. Moi, je trouve dans le bon sens, je suis assez contre des gens qui c'était mieux avant, machin. Je trouve qu'il y a une ville, ça change.
Thank you.
On va au premier étage voir Anne, qui a acheté un appartement il n'y a pas longtemps ici. On est juste à côté de l'église Saint-Bernard, dans une partie du quartier assez calme. Bonjour Anne.
Alors, je m'appelle Anne Klein, j'ai 28 ans, je suis sage-femme hospitalière et j'habite à la Goutte d'Or depuis un an.
Et comment t'es arrivée à la Goutte d'Or ?
J'ai souhaité acheter un appartement parce que j'avais un apport et en cherchant pour acheter dans mes prix, c'était soit les périphéries de Paris, soit la Goutte d'Or pour avoir à peu près un mètre carré raisonnable, quoi. C'était intéressant au niveau des prix, mais c'est aussi... j'aime beaucoup ce côté quartier encore populaire, très vivant, où il y a beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives collectives, citoyennes, et où ça bouge, en fait. Et puis, il y a plein de choses à faire.
Qu'est-ce que tu aimerais faire ici, par exemple ?
Ce que j'aimerais faire, c'est retourner toquer aux ateliers de créateurs qui est à Rue des Gardes pour aller... discuter avec eux, voir si je peux pas faire un genre de stage ou quelque chose et vraiment essayer de faire partie de cette goutte d'or créative parce que moi c'est quelque chose qui me passionne donc c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Et puis il y a aussi une épicerie solidaire où ça fait un mois que je me dis qu'il faut que j'y aille pour m'inscrire, donc voilà, c'est mes prochains objectifs à la goutte d'or.
Et t'imaginais ce quartier aussi créatif avant d'arriver ou pas du tout ?
Pas du tout. Les premières fois où je suis passée rue des Gardes, je me suis demandé mais qu'est-ce que ça faisait là, à côté de Barbès. Enfin, j'ai été vraiment très agréablement surprise par toutes les pépites que recelait ce quartier. Et que si on ne prend pas le temps de s'y arrêter et d'aller voir ce qui se passe, on ne les apprécie pas, quoi.
Et alors, au quotidien, est-ce qu'il y a des choses, au contraire, que tu déplores, qui t'embêtent un peu
Ce quartier reste quand même très sale. Même si le quartier est très beau en soi, mais je trouve que voilà, il y a des efforts au niveau de propreté. Et puis, en tant que jeune femme célibataire, c'est le soir pour moi de rentrer chez moi toute seule. Ça me demande. Je suis beaucoup plus attentive que dans les autres quartiers où j'ai vécu à Paris. Et c'est vrai que je prends peu le métro le soir, que je fais que du vélo pour justement pas me retrouver à Barbès à minuit. Voilà, où je me sens pas forcément en sécurité.
Pourquoi, Barbès, tu te sens pas en sécurité là-bas ?
Il y a beaucoup de jeunes hommes qui zonent et qui ont tendance à nous alpaguer, à nous dire du mademoiselle, vous êtes très jolie. Ça reste toujours très correct, mais c'est lourd à vivre et on n'a pas envie de tester ça à minuit en rentrant. Enfin, pour moi.
Donc alors, on va aller rendre visite à Mani.
On arrive au cinquième étage.
Entrez, bonjour.
Merci beaucoup de m'accueillir,
Maggie. Je vous en prie, entrez.
C'est beau chez vous.
Mais il y a des beaux appartements dans le quartier.
Alors, Anne m'expliquait, je le vois là que...
J'ai un duplex, oui.
Vous avez deux étages.
Mais ça fait plus de 20 ans que j'habite ici. Et je m'y plais beaucoup.
Alors votre appartement, enfin l'immeuble du coup, grâce à vous, il a changé quand même depuis toutes ces années. Est-ce que vous avez l'impression que dehors aussi ça a changé ?
Oui, surtout depuis quelques années où c'est devenu bobo.
Bobo ?
Oui, devenu bobo. J'ai rien contre eux, mais je m'aperçois que les bobos ne luttent pas. C'est dommage. Tout le monde dit oui, le quartier a blanchi. Ah ben oui, parce que les jeunes qui achètent, c'est pas des rebeurs. C'est des gens comme Anne, comme moi, parce que ça vaut la peine, parce que c'est pas cher, parce que c'est bien situé, parce que dans Paris, c'est difficile quand même. Ça a quand même donné une autre allure au quartier. Il y a ouvert des restaurants, des pizzerias. Il y avait un vieux café Kabyle sur la place, là, qui était sympa comme tout. On prenait des petits cafés là, à 1,20€, 1,40€ à la terrasse et tout. Alors maintenant... Elle a été rachetée et maintenant le café c'est 2,20€.
Barbès va-t-il perdre son âme populaire et ses prix défiant toute concurrence dans la capitale? C'est la question, Sarah, que beaucoup se posent en ce moment.
C'est une inquiétude qui monte, c'est vrai. À 6500 euros du mètre carré en moyenne, il est encore possible d'acheter ici un appartement moins cher que dans les autres quartiers parisiens. Mais c'est toujours la même question, pour combien de temps? À Barbès comme ailleurs, on n'échappe pas à la spéculation immobilière.
Alors de son côté, la mairie de Paris tente de reprendre la main. Régulièrement, elle use de son droit de préemption pour créer de nouveaux logements sociaux. Actuellement, dans le 18e arrondissement, il y en a 20%.
Et à la goutte d'or, l'autre combat de la municipalité, c'est ce qu'elle appelle la diversité commerciale, qui pourrait bien définitivement changer le visage du quartier.
Alors on vous retrouve avec Michel Nerneuf, adjoint au maire du 18e, au cœur du marché de Châteauroux. Je pense savoir plus sur cette diversité commerciale.
Là, on arrive rue de Jean.
Donc là, il y a une boucherie à notre gauche, une quincaillerie au milieu, poissonnerie à droite.
Et puis, beaucoup de vendeurs à la sauvette. Donc voilà, alors en plus, si vous voulez, ça fait quand même des rues sales, et qui pourtant sont nettoyées encore plus que les autres. Non, puis il y a du monde dans les rues.
En fait, l'espace public ici est vraiment occupé, quoi.
Complètement.
C'est vivant.
Oui, c'est vivant, mais imaginez que vous habitez là. Et quand vous habitez dans un immeuble dans lequel vous avez du mal tous les soirs à rentrer, parce que la porte, il y a plein de gens devant, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a des bagarres, parce qu'il y a ceci, à la fin, vous en avez marre. Et donc, les gens qui habitent par ici pétitionnent souvent. Donc, nous, l'action de la municipalité, c'est d'essayer de penser à desserrer ce lieu. C'est-à-dire de proposer ailleurs dans Paris. Tiens, vous voyez, là, il y a certainement des policiers qui arrivent.
Il y a plein de gens qui partent en courant.
Voilà. Bon. Donc, je reviens sur mon marché du Saint-Continent.
Aller ailleurs.
Donc, proposer ailleurs, juste à l'arrivée du périphérique, et de l'autoroute du Nord, un endroit avec parking, avec tout ça, qui éviterait que toutes ces rues soient encombrées par des voitures qui viennent le samedi, c'est impossible ici. Et donc desserrer aussi un peu le commerce. Ça fera un peu moins de monde ici, et donc petit à petit, ça rétablira les choses.
Mais ce projet, ça fait très très longtemps que vous en parlez.
Ça fait très très longtemps, mais maintenant, ça y est, ça commence à rentrer dans les textes.
Ah.
Et donc ça commence à rentrer dans un aménagement qui s'appelle l'aménagement de la gare des Mines, qui est une partie qui est située entre la porte de la Chapelle et la porte d'Aubervilliers, disons. Et dedans, il y aurait le marché des 5 continents, entre autres. Alors là, par contre, ça, c'est un immeuble, celui qu'on voit en face, un immeuble neuf que l'on a fait construire. Et donc là, on a fait tout un travail avec le bailleur pour que reviennent des commerces qui n'existaient plus. Et donc, on a un fleuriste.
Et c'est ça l'enjeu pour vous aujourd'hui, en fait?
On essaye de faire que tous les commerces qui s'installent ici et dont nous avons la main mise dessus, dans la mesure où c'est un bailleur social, il y a une commission qui travaille pour dire qu'est-ce qui manque dans ce secteur, comment on va trouver quelqu'un qui va accepter, etc., etc. Et là, on est resté longtemps, le commerce vide. Donc le bailleur n'était pas content, mais jusqu'à ce qu'on lui trouve ce fleuriste qui a l'air d'être content. Et puis un marchand de chaussures à côté. Voilà, et là donc on arrive dans le secteur de la rue Cavé, de la rue Mira.
Et voilà. Alors, la rue Mira, c'est une des rues les plus connues, en fait, de la Goutte d'Or. Tout le monde connaît la rue Mira à Paris. Beaucoup ont déjà entendu parler de la rue Mira.
Ils la connaissent parce qu'il y a eu des déclarations aussi sur l'occupation par notre amie Marine Le Pen. Donc, quand elle mettait en avant l'occupation de la rue, de l'espace public par les musulmans, c'était rue Mira. La mosquée était là-bas, là. Enfin, elle est toujours là-bas. Et petit à petit, la rue a été un peu fermée le jour de la prière. Et puis, petit à petit, ils sont étendus. Mais en réalité, le véritable endroit où il y avait vraiment un grand étalage, c'était la mosquée de la rue Polonceau.
Qui n'existe plus aujourd'hui.
Qui n'existe plus. Maintenant, ils sont à la caserne du côté de la porte des Poissonniers.
Ça, c'est une boulangerie toute neuve.
Oui. Et ça, c'est tout le travail qu'on a fait hein, pour essayer d'avoir un vrai boulanger et pas quelqu'un qui simplement met du truc surgelé à cuire.
Et donc là, on est juste en face. On est passé devant la ferme parisienne, la seule ferme...
Voilà. Où on vend des poules vivantes.
Il y en a combien là en tout?
Là, il y en a à peu près 70, on va dire.
Ils viennent d'où ces poules?
Elles viennent de la campagne, de la Bretagne.
Il y a un bout de Bretagne à la Goutte d'Or.
Exactement, oui. C'est un petit bout de campagne à Paris.
Et comment vous appelez?
Moi, Mohamed. C'est moi le gérant, voilà.
Et c'est votre père qui avait créé le commerce ?
Oui, à l'époque. Bah, c'était dans les années 80. J'étais encore tout petit et la mairie de Paris a envisagé de démolir les immeubles insalubres et les vieux immeubles. Comme le local allait partir, chercher dans le quartier un local et on a eu de la chance d'en trouver un pas très loin.
Et alors, qui vient vous voir ici ?
Bah, on a toutes sortes de clientèles, hein. Il y a la petite grand-mère qui passe pour les œufs frais, etc., qui achète quelques poules pour manger des œufs bio, manger des œufs du jour. On a même des intermittents du spectacle, des réalisateurs pour des scènes de films, etc. On a aussi pour des offrandes, vous savez, on a quelques musulmans, quelques personnes de religion juive, etc., qui ont des... vous savez, dans leur religion, il y a par exemple la religion juive, une fois par an, quand ils ont une fille, par exemple, ils offrent une poule, et quand ils ont un garçon, ils offrent un coq. On a les Chinois, quand ils se marient, l'homme doit acheter un coq et la femme doit acheter une poule. Et voilà, nous on est là, on est à leur disposition. Quand ils ont besoin de volaille, on essaie de satisfaire.
Non, ça, ça passe. Il n'y a pas ça. Monsieur, s'il te plaît, il n'y a pas ça.
Tu veux quoi ?
Là, l'autre, c'est lui là.
Un blanc ?
Oui. Garde la balance et il y en a un rouge. Comme ça. Non, ça passe.
Ah, tu veux un coq toi ?
Oui.
Un coq ?
Oui.
Avec une crête ?
Oui.
Un coq, un coq, un coq.
Alors, c'est comment la Goutte d'Or aujourd'hui ? Là, on est dans la rue Mira, on est en plein milieu, juste devant votre boutique, la ferme parisienne.
Voilà. Et donc là, aujourd'hui, il y a la diversité, c'est très bien. Il y a de nouveaux magasins. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de magasins aussi qui disparaissent, notamment des magasins comme le nôtre, des magasins de type africain, maghrébin.
Pourquoi ils disparaissent, les magasins ?
Ben, la mairie ne veut plus de ce type de commerce. Je trouve ça dommage parce que bon, l'étiquette de Barbès, de la Goutte d'Or, voilà, ça fait partie, c'est typique, c'est l'histoire, quoi. C'est l'Afrique, c'est le Maghreb. Je trouve ça un peu dommage.
Et lui aussi était un grand amoureux et défenseur de Barbès, même si durant toute sa vie, passé la ville poissonnière, il sera resté discret. Tout de suite, c'est Alain Bachung et résident de la République sur RFI.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, les atomes, fais ce que tu veux.
Jean-Marc Bombeau, on est devant l'écomusée.
Ouais.
Il est jaune l'écomusée, il est tout en haut de la Goutte d'Or en fait, il est sur la butte.
C'est le passage nord-sud du quartier, donc il y a le square qui est juste en face, hein. Donc voilà, beaucoup de lumière ici, sur cette place. En été, c'est un pur régal, quoi. On fait comme les papillons, on se met dehors et puis on discute avec tous les gens qui passent.
Donc là, on est juste en face de cette façade, donc écomusée, ça s'écrit E-C-H-O, musée,
oui.
Tout attaché.
Oui, bien sûr, mec. C'est comme les écomusées... de province, sauf que c'est plus en résonance avec les gens qui veulent pratiquer l'espace, quoi. C'est un espace d'initiative, en fait. Il suffit de pousser la porte, de dire j'ai envie de faire quelque chose, et puis nous on essaye dans la mesure de nos moyens d'accompagner le projet. Et la façade, il y a des peintures qui sont sur les murs, il y a un plan du quartier qui a été fait par plusieurs artistes. Il y a un grave de Monsieur Chat par exemple sur un rideau de fer de la boutique. Il y a d'autres peintures qui ont été réalisées par des amis du quartier. Voilà. Donc on essaye aussi de faire vivre la galerie en extérieur. On va rentrer parce qu'il pleut un peu.
C'est donc à l'écomusée de la Goutte d'Or que vous avez à présent, Sarah, trouvé refuge.
Refuge, c'est un mot qui va bien à cet espace culturel unique. C'est un lieu d'échange incroyable. Dans le quartier, tout le monde connaît l'écomusée. Tout le monde m'avait aussi parlé de Jean-Marc Bombeau qui l'a créé. C'est une figure du quartier qui est de tous les projets culturels à la Goutte d'Or.
Alors autour de cet ancien garage, des lieux plus officiels liés à la mairie de Paris, comme le centre Barbara, le cinéma Le Louxor ou l'Institut des cultures d'islam ont récemment vu le jour. Et au milieu, l'écomusée fait figure de pionnier, mieux d'un.
On accueille ici des expositions, entre autres, hein, parce qu'il y a aussi énormément de petits spectacles, de musique, de poésie, de théâtre, de slam, des réunions, des débats, des projections, pas mal de choses. Et les gens rentrent ici et puis disent « Ah ben tiens, moi j'aimerais faire telle chose ou telle autre ». Et donc c'est à nous à chaque fois de dire, bah oui, bah attends, on va monter le projet, il ne suffit pas de parler, il faut faire. Et donc c'est comme ça que ça se passe depuis pas loin de 25 ans.
Et vous vivez ici ?
Je vis dans ce quartier depuis tout ce temps, oui, bien sûr. Se promener dans la rue, c'est génial. C'est un village dans Paris. Les gens n'imaginent pas, ce quartier était vachement stigmatisé depuis la guerre d'Algérie jusqu'à maintenant, sur l'immigration et toutes ces choses-là. Alors qu'il y a une âme dans ce quartier qui est superbe, quoi. On est vraiment ailleurs.
Et on entend de la musique, là.
Oui, on entend de la musique. C'est la jam hebdomadaire à l'écho. Donc c'est tous les amis musiciens qui se rejoignent ici, qui improvisent. Tous les gens du quartier, amateurs ou professionnels, voilà. Mais bon, il y a un slameur qui est là ce soir.
C'est celui qui chante là.
Voilà, qui pose ses textes et puis les musiciens qui embrayent derrière. Donc on génère des ambiances comme ça à chaque fois.
Et effectivement, il y a plein d'instruments différents, il y a un accordéon, il y a une guitare basse, un violon.
Ouais, on a même eu des scies musicales. Après, il y a les ouds, les crotales, il peut y avoir aussi bien des gens qui font de la musique de gnawa ou africaine purement, ou du folklore russe ou des choses comme ça, c'est très drôle. C'est le mélange qui est génial, quoi. C'est le but de l'écomusée, de tout brasser, de mélanger. Voilà, c'est une ouverture à tous.
Est-ce que c'est pas un peu utopique tout ça ?
Non, non, parce que en fait, le temps prouve que ça fonctionne. Donc, tu sais, l'utopie, c'est la réalité de demain, mais comme j'ai commencé avant-hier.
Je sens qu'effectivement ce quartier mériterait des lieux de partage qui ne soient pas forcément que la rue, que ne soit pas que le parc, même quand il ne fait pas beau. Car ce quartier démontre une grande force de résistance. Mais c'est un sujet assez complexe parce que la question du logement dans la Goutte d'Or est arrivée à un moment assez sauvage où effectivement il y a une vraie guerre en cours pour qui veut acheter, pour qui aimerait avec tout raison rester dans un quartier dont peut-être il habite depuis 30 ans. Et donc oui, il y a les questions du logement et des espaces en général, je crois que c'est le grand sujet de la Goutte d'Or et c'est là que les politiques publiques doivent absolument intervenir, être présents et ne faire pas trop de clins d'œil aux promoteurs. Ça pourrait être très facile que ce quartier change soudainement et après ce serait une grande perte. Pas seulement pour Paris, mais pour l'histoire française. Parce que ça, c'est un quartier qui parle de toutes les colonisations. Et si on l'efface, c'est comme si ces colonisations n'ont jamais eu lieu. Et c'est pas vraiment le cas.
C'est mineur, c'est la mineur.
20 ans après l'évacuation de l'église Saint-Bernard à Barbès, où avaient trouvé refuge des centaines de sans-papiers, c'est vrai que le quartier est un livre ouvert de l'histoire de France et de ses immigrés, un lieu rare et précieux. Et Michela, italienne installée ici depuis 2 ans, qu'on a entendu, fait bien de nous le rappeler. Les Parisiens, eux, Sarah, ont souvent tendance à l'oublier.
Et ce qui fait la force de ce quartier, ce sont bel et bien ses habitants, des habitants qui s'interrogent et agissent encore au nom de la mixité, ce qui n'est plus vraiment le cas ailleurs dans Paris.
Voyageurs curieux, n'hésitez donc pas une minute, Barbès vaut plus qu'un détour. Sur notre site RFI.fr, rubrique émission si loin, si proche, on vous a indiqué plusieurs liens pour préparer, accompagner votre balade à Barbès, Babel, la Rebelle. Merci Sarah.
Merci Céline, merci aussi à tous les habitants de Barbès qui m'ont guidée.
Laure Allary, Céline Develay-Mazurel et Sarah Lefebvre. On vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, on vous souhaite de beaux voyages. Géopolitique.